Ben c'est bien parce que les exemples que vous avez pris, ça ne correspond pas à mes exemples. En fait, moi, je voulais faire une présentation, une introduction, je dirais, parce que ce n'est pas vraiment une présentation. Des différents exemples, mais Olivier, il a passé plutôt le côté moléculaire et cellulaire pour présenter la sous-optimalité à l'échelle moléculaire et présenter ça en biologie. Et moi, ce sera plutôt dans une des exemples un peu plus global. Et j'ai pris quatre exemples. Les deux exemples, c'est vraiment le côté biologique. Et les deux derniers exemples, c'est vraiment à l'interface biologie et société, de passer du contexte biologique et se trouver dans un contexte un peu plus large, de l'interaction de la science avec tout ce qui est humain et tout ce qui est social derrière. Parce que quand on est en science, on a toujours la tendance parfois de se mettre dans notre domaine d'études et on a du mal à sortir un peu de ce confort scientifique et de se trouver dans un contexte un peu plus social et de voir quel est l'impact de notre recherche et de notre travail en fait dans la société. Du coup, j'ai, la définition que j'ai donnée pour la sous-optimalité, c'est un peu une définition purement biologique, je dirais. Parce que je dis que la sous-optimalité peut être considérée tout ce qui est complexe, tout ce qui est aléatoire et tout ce qui est non efficace à l'échelle microscopique, et qui se traduit comme une résistance et comme une force d'adaptation à l'échelle macroscopique. Quand j'ai dit que c'est une définition biologique, c'est parce que je parle de l'échelle microscopique et je passe dans une échelle macroscopique. Et la notion de l'échelle en biologie, c'est hyper importante. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est important aussi de voir cette échelle et cette notion de l'échelle et de la comprendre. Du coup, là, je vous ai présenté une échelle, mais c'est vraiment une échelle très, très simplifiée, en fait. C'est l'idée c'était de vous présenter cette complexité qui existe à différentes échelles et cette complexité à différentes échelles qui fait qu'on est on est considéré comme un système qui fonctionne et que parfois on n'est pas vraiment consciente en fait de cette complexité, de cette côté aléatoire qui existe à l'échelle microscopique. Ça c'était juste pour vous présenter ça. Et ensuite, j'ai passé dans un premier exemple. C'est l'exemple de maladie qui est la drépanocytose et la malaria. En fait, la drépanocytose, c'est une maladie génétique qui est due à une mutation d'un gène qui code pour une protéine qui est la hémoglobine. L'hémoglobine, elle est importante pour le fonctionnement des globules rouges et le transport de l'oxygène de notre organisme. Ce qui a été depuis longtemps a été pensé que la drépanocytose est une maladie qui est assez fréquente en fait dans certains pays, surtout dans les pays asiatiques et aussi en Afrique. On pensait que le fait d'avoir cette mutation, ça dit que le système il est plus parfait, c'est-à-dire qu'on a une mutation et cette mutation elle va toucher notre système, notre corps et notre organisme en général. Et là, je vous ai présenté des globules rouges, moi pas vraiment, des globules rouges normands. Qui fonctionnent bien et des globules rouges qui sont touchés par cette mutation et cette modification de forme de globules rouges elle est attachée et associée avec ce dysfonctionnement en termes de système sanguin et de fonctionnement du système sanguin. Et il y a une étude qui a été publiée en 2011 où ils ont montré que les individus qui sont touchés par cette mutation ils sont plus résistant face à une infection de pathogène et c'est le plasmodium qui est l'agent infectieux de malaria. Ce qui veut dire que le fait d'avoir cette mutation, on pense que c'est vraiment imparfait en général, mais cette mutation-là, comme vous avez dit, ça, à l'échelle, en fait, à long terme, en fait, la biologie elle fonctionne à long terme, c'est que on a cette mutation à un instant donné, mais cette mutation, il se peut que dans plusieurs années, dans une échelle plus grande, ça va nous apporter des avantages et c'est une forme de résistance et d'adaptation à les conditions environnementales. Et dans ces cas-là, c'est l'exemple de plasmodium que les individus ils sont plus résistants à malaria en fait par rapport aux individus qui sont normaux pour la mutation. Bon, c'était juste un exemple un peu général. Et ensuite, là, je vais parler un peu pour la génétique. Et je vous dis en fait que notre génome, alors si on voit un peu le côté évolutif des espèces, nous, les humains, on est plus évolué par rapport aux autres espèces. Dans le sens où on est capable, il y a le côté cognitif et conscience, mais je ne vais pas passer là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport à une bactérie, nous, on a moins de gènes qui sont codés par rapport à des espèces qui sont vraiment alimentaires, élémentaires, par exemple, des bactéries ou des virus. Comment ça s'explique? Alors, concrètement, on a juste 2%, à peu près 2% de notre génome qui est avec des éléments génétiques codants. Quand je dis codants, ça veut dire que c'est traduit en protéines. Alors que la grande majorité, c'est des régions intergéniques, des régions qui ne codent pas pour des protéines. Depuis longtemps, on pensait que ces régions-là, ça ne sert à rien. C'est vraiment des régions poubelles dans notre génome. Mais on ne comprenait pas pourquoi on a cette différence en termes de pourcentage des gènes qui sont codés. Et en fait, si on voit un peu plus loin, il y a toujours des mutations qui arrivent dans notre génome. Il y a toujours l'environnement, il induit des mutations. Et ce pourcentage des génomes qui n'est pas codant, ça veut dire que si une mutation il arrive, la probabilité que cette mutation arrive dans une région codant, c'est-à-dire dans une région qui code pour des gènes, pour des protéines, elle est moins grave dans le cas de notre génome par rapport au génome des bactéries. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple des bactéries qui se multiplient et que même s'ils partent d'une même bactérie mère, les clones, en fait, il y a une diversité génétique assez importante. C'est parce qu'on est plus robuste en termes génétiques, parce que c'est toute cette région-là, nos codons, qui nous protège, en parenthèse, face aux mutations. Qui arrive de plus en plus. Ça explique en fait, et c'est dans le cas des sous-optimalités, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas. On dirait que d'être optimal, ça veut dire d'avoir plus de gènes qui codent pour des protéines, que le système fonctionne bien. Mais en fait, c'est pas comme ça, c'est qu'on est sous-optimal, on a moins de gènes qui codent pour des protéines par rapport aux autres espèces, mais ça, à l'échelle macroscopique, en termes d'évolution et d'adaptation, ça nous protège face aux risques de mutation. Et un autre exemple, c'est le système exostatique et le système endostatique. Déjà, il faut que je vous explique c'est quoi ces deux systèmes. Le système endostatique, c'est le système je mange quand j'ai faim. Donc, c'est mon corps, c'est mon organisme qui a besoin de nutrition, qui a besoin des éléments nutritionnels. Et du coup, je mange. Et c'est une interaction entre le corps et c'est une interaction avec les régions de l'hypothalamus au niveau du cerveau qui nous oblige en fait qu'on va manger parce qu'on a faim. Et le système exostatique, c'est le système où je dis je mange quand je vois qu'il y a un repas qui semble bien. C'est-à-dire, je me trouve devant le dessert, même si j'avais mangé avant, je vais manger encore parce que c'est juste la présence du repas devant moi qui me donne envie de manger. Alors, pourquoi ces deux systèmes ils coexistent ensemble? Mais si on voit un peu le côté évolutif de cette coexistence, c'est un système qui nous permet en fait de s'adapter au changement des conditions environnementales. C'est-à-dire que le fait d'avoir ce système exostatique, c'est d'avoir un plus dans notre système de nutrition. Parce que grâce à le système exostatique, on réserve en fait, on a des réserves nutritionnelles à l'intérieur de nous. Et ce qui permet que si dans une période de carence ou dans une période, par exemple pendant les guerres ou des maladies en fait, maladies graves, notre corps, il a ces réserves-là qui sont dues à ces systèmes exostatiques et qui nous permettent de suivre et de s'adapter aux nouvelles conditions. Mais ça, c'est le côté évolutif et le côté sous-optimal qui est important. Mais pourquoi j'ai mis maladie? Parce que là, on est dans un monde anthropocénique, c'est-à-dire qu'on essaye d'optimiser tout dans tous les sens. Et pour nous, c'est inacceptable en fait de ne pas avoir à manger. Et on essaie toujours d'optimiser cette question-là, c'est-à-dire d'avoir toujours des choses à manger. Et ce qui se passe, c'est que le système, il sort de son fonction. C'est-à-dire que si, à la base, il avait la fonction de résistance et d'adaptation dans le cas où les conditions ils sont en carence, dans ces conditions-là, où on a optimisé tout, le système, il fonctionne. Mais il est sorti de sa fonction et on devient malade. Il y a les problèmes d'obésité, les problèmes de diabète, c'est-à-dire qu'on se trouve devant des nutriments et des aliments tous les jours et on n'arrive pas à freiner ce système-là. Bah, ça, c'est un exemple où on dit que la vie qu'on a maintenant, c'est l'anthropocène, je veux dire, l'idée de optimiser tout, ça fait qu'on n'arrive plus à contrôler tout ce qui est biologique et tout ce qui est adapté à l'intérieur de nous. Ça, c'était un exemple que je voulais montrer. Et là, je vais passer plutôt dans un exemple d'intelligence artificielle et le fonctionnement du système nerveux. Pourquoi je voulais parler de ça? Parce que, en fait, l'intelligence artificielle, c'est un peu la question du jour en ce moment. Et quand on parle de système nerveux, quand on parle de l'intelligence artificielle, pour moi c'est toujours direct lié avec le système nerveux et la façon comme le système nerveux fonctionne. Le cerveau, il est très très complexe. Je pourrais jamais dire en fait la complexité qu'il présente. Déjà, les neurones en fait qui fonctionnent sous forme d'un réseau neuronal et qu'il y a des interactions permanentes entre les différentes régions du cerveau et qu'on n'est toujours pas capable de savoir cette interaction et de les comprendre exactement. Mais ce qu'on sait, c'est que la capacité d'adaptation et notre capacité d'améliorer et dans une tâche donnée, par exemple, elle repose sur la présence continue des stimuli qui provient de notre environnement. C'est-à-dire qu'on a des stimuli qui viennent de notre environnement et qui obligent, en parenthèse, l'adaptation de notre cerveau ou ce qu'on appelle la plasticité de notre cerveau. C'est-à-dire qu'une région, si lui, il n'est pas mis sous la stimulation, il reste pas plastique. Ça veut dire, quand je dis plastique, c'est vraiment la question d'une amélioration de fonctionnement de cette région-là. Et la question qui s'est posée en termes d'intelligence artificielle, c'est que si on essaie d'automatiser tout, si c'est le robot qui va faire tout à notre place, les stimuli ne seront plus là. Parce que voilà, on aura les robots qui seront à côté de nous et qui vont faire notre tâche à notre place. Et du coup, qu'est-ce qui se passe avec le fonctionnement de notre système nerveux? C'est-à-dire, de quelle façon il va évoluer? Et la question qui s'est posée, c'est que on est arrivé jusqu'ici, c'est-à-dire si on compare l'humain à cette époque-là et si on compare avec les époques un peu plus récentes, on a évolué, c'est-à-dire on s'est amélioré et c'est l'environnement qui nous a imposé de cette amélioration. Mais si l'intelligence artificielle, elle se met dans un contexte d'optimisation et de perfection partout, c'est-à-dire que les robots qui vont faire tout de façon très très efficace, qu'est-ce qui va se passer avec notre capacité de s'améliorer et de s'optimiser? Voilà, ça c'est les différents exemples que je voulais...
J'ai à la fois l'impression d'avoir compris, mais oui. En être sûr. Donc, le phénomène le fait de l'intelligence artificielle peut décroître notre capacité?
Je ne dirais pas décroître, mais je dirais... en fait, c'est une impression vraiment très personnelle, parce que si la présence de l'intelligence artificielle, si on a les robots qui font une tâche pour nous, ça veut dire qu'on ne sera plus capable, en fait, au bout d'un moment, le cerveau il sera plus plastique à faire ses tâches, c'est-à-dire qu'on sera plus... apte à effectuer ces tâches en fait, parce que s'il n'y a pas de stimuli, le système nerveux
Mais en matière de sous-optimalité, ça dit quoi? C'est ça que je ne comprenais pas.
sur cette tonalité, c'est que dans ce cas-là, en fait, c'était un exemple pour montrer que le fait d'optimiser, d'avoir cette tendance d'optimiser tout dans le cadre de l'anthropocène, dans le cadre d'une optimisation générale, ça a un effet en fait sur notre santé, sur notre capacité d'adaptation.
Par exemple, les ascenseurs. Si on voit toujours, si on prend que des ascenseurs, après quelques siècles de ce système-là, ben on sera plus capable de monter les escaliers. Et voilà.
Mais ça parle pas de la résilience, de la sous-optimalité, ça je comprends pas moi.
L'ascenseur, c'est l'optimalité. C'est plus efficace
voilà,
qu'aller à pied dans les escaliers. C'est plus rapide, on est sûr d'arriver, etc.
Oui, mais bon, c'est
maintenir une plasticité quelque part, c'est ce que tu dis. Hein. On peut considérer que c'est du gâchis d'avoir toute une partie du cerveau utilisée pour toujours réfléchir à faire des tas de choses alors que des machines pourraient le faire pour nous. Donc, c'est un gâchis d'énergie, c'est un gâchis de neurones, de temps. Et du coup, dans une société optimale, je le reformule, mais c'est exactement ce que tu as dit, je crois. Dans une société optimale, on veut réduire ce temps-là. À la limite, on veut même réduire le nombre de neurones qui sont dédiés à des tâches ingrates, qui ne sont pas dignes de notre humanité, quelque part. Donc, du coup, on donne ça aux machines et on garde que les neurones pour lire du Proust. Ou, voilà. Et en fait, un risque avec ça, c'est qu'on va, en fait, on n'accepte pas que ces neurones qui ne servent à rien, en fait, sont plastiques et peuvent être utilisés pour d'autres choses, sont un réservoir pour d'autres fonctions. Et donc, il y a un risque d'être dans un environnement tellement contrôlé que du coup, ça va changer notre physiologie. Quelque part,
exactement.
Oui, enfin, sous-entendu, on propose une solution sous-optimale pour éviter ça. Mais ça je l'avais entendu. Mais simplement, est-ce qu'il n'y a pas quand même la possibilité que les zones non utilisées se réutilisent ailleurs? C'est ça, on pourra en parler parce que ça nous amène au transhumanisme.
Après, c'est débattable.
Au plan neuroscientifique, c'est pas sûr. D'abord, sur la plasticité, il y a de nouveau des points d'interrogation. Et puis, sur la capacité de justement d'utiliser les parties non utilisées à d'autres fonctions, mais peut-être entendable. Et c'est pas forcément. Je suis pas sûre que ça démontre autant les choses. Je vous permets.
Après, on peut imaginer qu'il y a il y a plein de formes d'intelligence artificielle aussi. Donc, on peut imaginer qu'une autre forme d'intelligence artificielle qui serait plus sous-optimale, par exemple, pourrait moins laisser un peu une marge de liberté.
Enfin, je me permets d'insister parce que c'est un sujet très aigu.
Oui, je sais.
Et qu'à un moment, on pourra y revenir dans le cadre de l'échange, de la discussion. Parce que justement, c'est à manipuler avec vachement de précision ou pas. Enfin, c'est. Oui. La vision des choses.
Peut-être je ne sais pas qui. Oui. On peut imaginer que l'optimalité est recherchée par chacun, à chaque instant quasiment. On s'installe dans des routines, on a peur de l'étranger, on a peur de tout ce qui nous oblige à nous adapter à des circonstances nouvelles. On devrait déménager toutes les 3 semaines, on devrait effectivement pour conserver une certaine plasticité neuronale, mais j'imagine articulaire, musculaire, etc.
Exactement.
Pardon, hein, mais bon.
Non, en fait, c'est tout ce que je voulais dire, en fait, les différents exemples que je voulais vous montrer.
C'est grâce à la plasticité, cette plasticité, qu'on peut lire et écrire. Puisque l'évolution n'a pas prévu que le singe avancé que nous sommes finirait par écrire du Proust et qu'on le lirait. Donc c'est qu'on a recyclé des neurones, ça c'est Dehaene qui a montré ça. On a recyclé des neurones qui étaient utilisés pour. Alors il donne l'exemple du Y, on reconnaît le Y. Qui a la même image qu'un embranchement d'un tronc d'arbre et d'une branche. Ça, c'est très utile de pouvoir reconnaître ça dans la jungle, dans la forêt dangereuse. Et on recycle ces modules de compréhension du réel pour pouvoir lire. Voilà. Donc, cette plasticité, elle, elle est là.
Et dans les langues, il n'y a pas le Y.
Il y a d'autres lettres, il y a d'autres embranchements, il y a tout ce qu'il faut. Il faut voir dans la salle intermédiaire la carte des alphabets dans l'expo.
Mais c'est vrai que, bon, c'est, certes, nous ne sommes pas entre nous participants, mais vous savez qu'on a, on avait souhaité, justement, lors de ces journées, faire un point, on va dire, des avancées en matière de plasticité, mais aussi de génétique et en particulier d'épigénétique, parce que justement, c'est des éléments qui sont très constitutifs, qui permettent d'avancer dans ce genre de réflexion. Alors, tu viens d'en parler, on pourra en parler au fur et à mesure. Moi, après, j'ai juste une interrogation sur les derniers éléments de la plasticité qui sont de nouveau questionnés, mais ça, je ne sais pas si aujourd'hui ça vaut le coup de l'évoquer. Gardons le schéma que ça peut nous donner au plan philosophique, ça ouvre, donc ouais. C'est formidable.
Ouais. Non, juste un commentaire en fait. Vous avez dit que la plasticité, il est toujours là. Je suis d'accord qu'il est toujours là, mais s'il n'y a pas de stimulus, il n'y a pas de plasticité. Ouais. C'est pour ça, c'est à la conclusion que je voulais dire en fait.
Oui, mais c'est de quel stimuli on parle, voilà.
C'est on est sur des stimuli externes.
Exactement, c'est l'environnement en fait qui nous impose.
Ce qui est dans le traitement de l'autisme aujourd'hui, chez les tout bébés, hein, les tout petits sur lesquels il y a des suspicions d'autisme, les traitements qui sont opératoires, c'est ça. C'est qu'on vient stimuler, on vient faire appel à des régions cérébrales qui n'ont pas été stimulées. Exactement. Et qui sont dormantes du coup. Et c'est, ça fonctionne, c'est imparable.
C'est pour ça que je dis en fait qu'il faut toujours avoir ces stimuli. Et après, ça dépend de l'environnement, ça dépend. Et quand j'ai pris l'exemple, en fait, qu'on est plus amélioré par rapport à nos ancêtres, en fait, en termes de plasticité, parce qu'on est plus capable, l'environnement, il a changé, on est devenu plus plastique. Et, oui, c'est la présence de stimuli, en fait, qui nous fait qu'on s'améliore de plus en plus.
Alors, dans un contexte chaotique et non amélioré, enfin, bon, la jungle, par exemple, cette plasticité se réduirait ou pas?
Pardon?
Non, mais je l'entends. C'est qu'on parle de cet environnement-là, qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, mais dans un environnement de nouveau hostile, comment ça?
Ben, on va s'adapter.
Justement, il y aura beaucoup de stimuli externes.
Donc la notion d'adaptabilité est bien en jeu.
Exactement.